démocratie.
La démocratie en question.
Bonjour à tous et bienvenue dans La démocratie en question. Nous sommes sur Radio Camille. Je serai aujourd'hui accompagné de Noah, notre animateur préféré, mais également Marius, notre chroniqueur, et notre expert, Léo. Le tout présenté par moi, Elliot. Il y a de cela quelques jours, nous sommes allés à Paris pour réaliser un podcast sur le CNU. Une fois arrivés à Montparnasse, nous sommes allés voir une exposition au musée des arts décoratifs. Ensuite, nous avons mangé aux Tuileries, avant de finalement nous rendre au Moulin Rouge. Non, évidemment, nous sommes en réalité allés au Sénat. À présent, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Apprenons-en plus sur le Sénat en faisant appel à notre expert.
Bonjour Léo, pouvez-vous maintenant nous expliquer en quelques mots l'histoire de ce lieu si emblématique de la vie politique française et de son histoire ?
Bonjour Noah. Alors le Sénat est un lieu ayant une grande importance dans la vie politique française. Il se trouve dans le palais du Luxembourg, qui a été construit avant la Révolution française par Marie de Médicis, la mère de Louis XIII, qui l'a fait construire entre 1615 et 1631 afin de pouvoir y vivre. Si vous faites attention, vous verrez que le bâtiment a une forme de H. L'une des deux ailes du H accueillait Marie de Médicis, tandis que la deuxième était prévue pour son défunt mari, Henri IV. À sa majorité, le roi Louis XIII est forcé de faire un choix entre sa mère, Marie de Médicis, et le cardinal Richelieu. À la surprise générale, il choisira son cardinal et exilera sa mère, qui n'aura finalement jamais pu habiter dans ce lieu qu'elle a elle-même fait construire.
Merci pour cette réponse très complète. En 1792, après la Révolution française, le Sénat était une prison. Comment une si grande différence entre son utilisation de l'époque et puis celle d'aujourd'hui, Léo ?
Le palais du Luxembourg est bel et bien devenu une prison après la Révolution française, durant la période de la Terreur. Elle accueillait des personnalités politiques qui étaient suspectées de complots contre la République. Elle a par exemple accueilli la future épouse de Napoléon, Joséphine de Beauharnais, ainsi que Danton, avant son exécution.
Merci. Sous Napoléon, ce bâtiment devient le Sénat. Comment a démarré la construction ? Que s'est-il passé par la suite ?
Il n'y a pas eu de construction à proprement parler, si ce n'est l'ajout d'une troisième aile située à l'est, afin d'y accueillir les archives et les services du Sénat. L'intérieur du palais a été réaménagé. Des bureaux, une salle de réunion, une salle de séance ont été construites pour des sénateurs. Le jardin a lui aussi été modifié pour faciliter l'accès aux sénateurs et créer des endroits privés. À la chute de Napoléon, en 1814, le Sénat est remplacé par la Chambre des Pairs jusqu'en 1848. Le Sénat sera rétabli par Napoléon III en 1852. Il sera contrôlé par l'Empereur jusqu'en 1870, puis redeviendra le Sénat puissant qui est aujourd'hui. Un lieu central du pouvoir législatif en France. Surtout lors de la Troisième République en 1870. Il est occupé par les nazis de 1940 jusqu'à 1944. Pendant la Quatrième République, le Sénat existe toujours, mais est moins important, ayant été affaibli par la Constitution.
Merci beaucoup. Pour finir, aujourd'hui, qu'en est-il, Léo ?
Aujourd'hui, le Sénat a toujours le rôle qui lui a été octroyé au début de la Ve République en 1958, sous De Gaulle. Il a retrouvé son rôle de chambre haute, mais possède moins de pouvoir que sous la Troisième République. Le Sénat siège toujours au Palais du Luxembourg, et certaines rénovations ont été entreprises pour donner un coup de jeune à ce vieux bâtiment.
Merci pour toutes vos réponses, Léo, et à une prochaine fois peut-être. Je vous propose de rester avec nous pour la chronique de Marius.
Avec plaisir, Noah. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli ici. Au plaisir de vous revoir.
En effet, ce que vous dites est très intéressant. Mais je pense qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre du palais du Luxembourg. C'est pourquoi nous accueillons à présent Marius qui va nous présenter ce qu'il reste à savoir de ce bâtiment. À sa façon, évidemment.
Maintenant que nous savons tout sur l'architecture du Sénat, personnellement je vais vous parler d'informations méconnues et surprenantes sur le Sénat. Tout d'abord, dès notre arrivée au Sénat, on peut trouver un ingénieux système de poulies, datant du 19e siècle, qui permet de transporter des missives du rez-de-chaussée jusqu'aux étages supérieurs. Il était à l'origine utilisé afin que les cavaliers puissent faire parvenir rapidement les nouvelles, et sert aujourd'hui à acheminer en urgence le menu de la cantine à Gérard Larcher. Parlons maintenant de sièges, ces reliques que possédait jadis Macron à l'Assemblée. Figurez-vous que les sièges de l'hémicycle du Sénat n'ont pas tous la même largeur.
Mais pourquoi ?
Parce que les sénateurs non plus. Ce n'est pas une blague, il y a 3 tailles de sièges en fonction de la morphologie de chaque sénateur. Dans le même thème, en se promenant dans les couloirs du bâtiment, on peut retrouver un mobilier assez surprenant, des doubles ou triples fauteuils en forme de S ou de croix, permettant à plusieurs personnes de se parler sans avoir à tourner la tête, très populaire pendant le Second Empire. Leur principale utilité donc, les secrets, les marchés conclus et beaucoup de coups bas. Pour 2 personnes, cela se nomme un confident, pour 3 ou 4 un indiscret. Si vous êtes plus nombreux et pour un tel usage, je vous conseille directement la tente de Kadhafi. Au sein du palais, vous pouvez retrouver des peintures à la gloire de Napoléon, de nombreuses statues à la gloire de Napoléon, et même, un peu tiré par les cheveux, des escaliers très longs afin que les convives arrivent essoufflés, courbés devant Napoléon. Vous vous en doutez, Macron est actuellement en recherche active de la descendance de l'architecte à l'origine de tout ça. Enfin, à l'intérieur du bâtiment, vous pourrez tomber nez à nez avec de majestueuses statues de lions. Seulement, voilà, le sculpteur n'avait jamais vu de lion de sa vie et avait pour seul modèle une fontaine. Vous pourrez constater, par conséquent, une anomalie génétique chez ces lions qui ont tous une bouche en jet d'eau. C'est assez amusant à voir. Voilà donc ce que ça fait de vouloir jongler avec l'inconnu quand on a vu arriver d'outre-Méditerranée autant de lions que Pascal Praud en a vu arriver de punaises de lit. Et ça sera tout pour moi.
Merci beaucoup à vous pour cette chronique intéressante et drôle. Et voilà, chers auditeurs, vous savez tout sur l'architecture du Sénat. Alors nous disons à revoir et à bientôt sur Radio Camille.
Au revoir.
La démocratie en question.